VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
11h à Bamako, midi à Kinshasa, bienvenue à notre journal. Au Burkina Faso, l'accès à Internet est quasi inaccessible et plusieurs réseaux de téléphonie mobile sont coupés aujourd'hui à Ouagadougou. Selon des habitants de la capitale, les putschistes essaieraient d'empêcher les gens de communiquer pour organiser des protestations. Au plan politique, la société civile et les ex-partis d'opposition sous le régime du président déchu Blaise Compaoré désapprouvent le plan de sortie de crise proposé par la médiation de la CEDEAO. Des précisions avec Anne Albertson.
Le projet d'accord préconise le retour au pouvoir du président Michel Kafando, victime du coup de force du RSP, le régiment de sécurité présidentielle. Il maintient les élections présidentielles et législatives au plus tard le 22 novembre et y inclut les candidats pro-Compaoré disqualifiés suite à une loi votée par l'Assemblée intérimaire. Le texte propose aussi l'adoption d'une loi d'amnistie pour les putschistes avant le 30 septembre. La réaction de la société civile, un non catégorique à ces propositions qualifiées de scandaleuses. Le porte-parole du Ballet citoyen, maître Guy Hervé Cam, n'a pas mâché ses critiques contre la CEDEAO, même opposition sans appel de la part du président du MPP, Roch Marc-Christian Kaboré, candidat à la présidentielle.
Pour sa part, le chef de l'État sénégalais Macky Sall, président en exercice de la CEDEAO et l'un des principaux artisans du plan de sortie de crise, a exhorté les Burkinabés hier à garder le calme et à éviter la violence. « N'allumons pas un feu que nous ne pourrons pas éteindre », a averti le leader sénégalais, selon l'AFP. Le coup d'État au Burkina Faso a eu lieu la veille de la publication des résultats d'enquête visant à faire la lumière sur les circonstances de la mort de Thomas Sankara. Or, le nouvel homme fort du pays est le général Gilbert Diendéré, haut dignitaire du RSP, le régiment de sécurité présidentielle, et responsable de la sécurité à l'époque des événements. Le point avec maître Prosper Falama, un des avocats de la famille du président assassiné.
Je vais vous dire si c'est un pur hasard, une pure coïncidence ou un calcul quelconque venant de la part, des dignitaires du RSP, dont certains sont d'une façon ou d'une autre fortement impliqués dans l'assassinat du capitaine Thomas Sankara. Mais nous sommes dubitatifs sur cette coïncidence, sans pouvoir affirmer quoi que ce soit avec certitude. Mais dans tous les cas, ce qui est important pour nous, c'est qu'il faudra un jour, que ce soit maintenant ou un autre jour, mais plutôt vaudra que plus tard, que ce dossier puisse aller de l'avant afin que nous sachions le contenu des expertises qui ont été réalisées sur les restes du capitaine Thomas Sankara.
Maître Prosper Falama, un des avocats de la famille Sankara. Au Mali, réaction unanime de condamnation du coup d'État au Burkina Faso. Des détails avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Elles sont nombreuses les formations politiques et associations de la société civile qui ont condamné le coup d'État au Burkina Faso. Oumar Mariko, président du parti Sadi.
Nos sorts sont liés par le voisinage et nos sorts sont liés parce que nous sommes tous de l'Afrique. Ce qui arrive au Burkina Faso, au peuple burkinabé, c'est quelque chose qui peut arriver au peuple malien. Et encore une fois, l'impérialisme français vient de frapper nos voisins. Il est là au Mali, terrible, dans la nébuleuse de la communauté internationale. Il est revenu au Burkina Faso après être sorti par la petite porte. Il est revenu par la fenêtre cette fois-ci avec des gens qu'il a contribué à mettre au pouvoir au Burkina Faso pendant plus de 27 ans.
L'ancien président de l'Assemblée nationale du Mali, Aliou Ndiallo, a salué le courage du peuple burkinabé.
Spontanément et héroïquement, le peuple burkinabé est fait face aux baïonnettes, à la mitraille.
Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
On reste au Mali. Le processus de paix avance difficilement suite à l'insécurité découlant des attaques terroristes et des combats entre les milices pro-gouvernementales de la plateforme et les ex-rebelles de la CMA, la coordination des mouvements de l'Azawad. Nous retrouvons notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré, pour davantage de détails.
Le gouvernement multiplie les actions pour une meilleure application de l'accord de paix. C'est pourquoi il y a eu une rencontre du comité de suivi. Amadou Konaté, ministre malien chargé de la reconstruction des régions nord du Mali.
Nous savons une chose, c'est que tous les signataires sont intéressés à la bonne mise en œuvre des accords. Ils nous l'ont réaffirmé chaque fois qu'on s'est retrouvés. Mais ce qu'il y a, c'est que peut-être que tous les signataires ne sont pas préparés au même niveau à une bonne mise en œuvre des accords. Certains d'entre eux, hélas importants, sont distraits par des préoccupations qui, s'ils les mettaient de côté pour s'occuper de la mise en œuvre des accords, se verraient résolu de la meilleure manière.
Kassim Traoré, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Cameroun, un double attentat suicide a de nouveau frappé dimanche l'extrême nord du pays. Bilan 5 morts, dont les deux kamikazes et un blessé grave. Ça s'est passé à Mora, une importante base militaire de la force régionale chargée de combattre les islamistes de Boko Haram dans le bassin du lac Tchad. Plus de précisions avec Claire Morin-Gibourg.
Malgré la coalition des pays frontaliers du nord-est du Nigeria, Boko Haram vient de commettre un nouveau double attentat suicide, le troisième depuis début septembre, dans cette région de l'extrême nord du Cameroun. Les kamikazes visaient le marché de Mora, une ville rurale de quelques dizaines de milliers d'habitants. Un marché extrêmement fréquenté en ce dernier dimanche avant la fête de la Tabaski. Leur interpellation par un policier en civil a probablement permis d'éviter un nouveau carnage. La ville de Mora est un des quartiers généraux de la force multinationale régionale chargée de combattre Boko Haram et elle abrite plusieurs bataillons camerounais.
Les réfugiés centrafricains au Tchad doivent participer aux prochaines élections législatives et présidentielles cette année dans leur pays d'origine, d'où un accord de coopération entre l'UACR d'une part et N'Djamena Ibangui d'autre part sur ce dossier. Le point avec notre correspondant N'Djamena, André Kodmajingar.
Pour moi, s'il y a la paix qui règne normalement, je devrais regagner mon pays.
Yotolom Jean-Pierre est le président des réfugiés centrafricains du camp d'Amboko, département de la Niapende, région du Logone oriental. Comme lui, la paix en Centrafrique peut favoriser le retour des milliers de cette communauté résidant au Tchad. Et cela ne peut être possible que s'il y a des élections démocratiques, libres et transparentes, ouvertes à tous. Cette préoccupation a amené le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à signer un accord tripartite de coopération avec le gouvernement tchadien et centrafricain pour la participation de ces réfugiés aux élections de 2015. Les autorités tchadiennes s'engagent pour leur part à faciliter ce processus dans le respect des principes de la protection des réfugiés. André Kodmajingar Djamena, La Voix de l'Amérique.
En RDC, la crise entre la majorité présidentielle et le G7 s'accentue à Lubumbashi, dans le Katanga. Certains membres du G7 ont présenté leur démission, d'autres se sont vus retirer leur service de sécurité. Et cela a causé un incident à Lubumbashi. Le point avec Narval Mabila, notre correspondant dans la capitale du Katanga.
Kyungu Akumwanza, président du bureau provisoire de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, président de l'UNAFEC, exclu par un autre groupe de l'UNAFEC, se voit retirer sa sécurité. Et les dimanches, il se retrouve encerclé par les hommes en uniforme alors qu'il était en basilique Sainte-Marie de la commune de la Kémia. La situation devient inquiétante et prêt à se dégrader entre les hommes en uniforme et les jeunes de la UNAFEC. La MONUSCO est descendue sur les lieux et la situation s'est dénouée à l'amiable. Devant ces militants, Kyungu Akumwanza n'a pas tardé à réagir alors qu'ils se sentent en insécurité.
Qui sont venus là-bas, on dit que le chef de l'État les a envoyés pour enlever la garde chez moi. Je les dis, je remets ma sécurité entre les mains du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. C'est lui qui a donné l'ordre qu'on enlève les policiers chez moi pour organiser un assassinat.
Ces événements se déroulent un jour après que Martin Kobler est venu faire ses adieux au Katangé tout en laissant un message.
La constitution doit être respectée. Vous avez notre plein soutien pour un processus crédible et transparent, mais aussi l'espace politique pour l'opposition, pour ceux qui ne sont pas d'accord avec le gouvernement, doit être gardé.
Silence radio de la part des officiers de la province du Katanga, Narval Mabila, Lubumbashi, VO Afrique.
Et puis les États-Unis se proposent d'accueillir 100 000 réfugiés annuellement à partir de 2017, c'est ce qu'a déclaré John Kerry. Plus de détails avec Nathalie Barge.
Prenant la parole hier à Berlin, John Kerry a fait savoir que la décision est un pas de plus dans le respect d'une tradition faisant des États-Unis une terre de seconde chance et d'espoir. Actuellement, la loi américaine impose une limite sur les visas de réfugiés, soit 70 000 par an. L'année prochaine, ce plafond passera à 85 000 pour atteindre les 100 000 en 2017. Et Washington envisagera les moyens d'aller au-delà de cette limite dans les années suivantes, a promis le secrétaire d'État.
Et pour terminer, dernier jour de la visite du pape François à Cuba, c'est donc aujourd'hui, le souverain pontife partira demain à destination des États-Unis. Prochaine étape de sa tournée dans les Amériques, à son programme des visites à Washington, New York et Philadelphie. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com ou alors bien sûr sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.